Salut à tous et bienvenue dans la chronique des composants, cette émission parallèle à Tech Café qui vous parle de tout l'univers de la microélectronique. C'est la 29e édition de cette chronique des composants et comme toute chronique des composants, je suis accompagné, moi Guillaume Vendée, de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Eh bien ça va fort bien et toi ?
Et très bien, on enchaîne après l'enregistrement du Tech Café que vous avez déjà probablement écouté, donc ça nous fait des bons marathons d'enregistrement à chaque fois avec Guillaume, mais on reste là plus fort que jamais pour vous apporter cette émission qui est toujours pas mal commentée et pour laquelle on a toujours des bons retours, donc grand merci. Et puis il y a toujours eu des bons retours aussi sur le fait qu'on avait séparé, tu sais, la chronique des composants des émissions classiques de Tech Café à l'époque, donc on avait fait un bon choix après tablette café et voilà, ça continue, ça dure toujours. Et qu'est-ce qu'on fera pour la 30e, tiens Guillaume, la 30e chronique des composants, il y aura un truc anniversaire ou pas?
Je sais pas, il faut faire gagner des trucs.
Je sais pas. Tiens,
il faudrait faire gagner
peut-être
un processeur.
Ah, pourquoi pas? Une vieille relique ou...
peut-être un vieux processeur.
Ça pourrait être rigolo, ça. Tiens, on pourrait faire gagner ton livre, je pense. Ça, ce serait malin, ça.
Oh, ça, ce serait malin.
On l'achètera au frais de l'assaut et puis on le fera gagner. Je pense que ça peut être pas mal. Peut-être même en faire gagner plusieurs. Pas 30, mais 3, par exemple. Ça pourrait être pas mal. On verra. Du coup, on a plein de différentes news. Je les ai balayées très, très rapidement, là, tout ce que tu as préparé avant l'émission. Et puis, on aura un focus, un petit dossier. On va reparler de nanomètres et puis on va peut-être se rendre compte que ce n'est pas qu'une taille. Ou en tout cas, si, les nanomètres, c'est une taille, mais aujourd'hui, dans l'univers des composants, le fait de graver en nanomètres, c'est pas forcément ce qu'on pense, et on va parler de tout ça à la fin de l'épisode. Mais avant, on a plein de news, puisqu'on a de l'actualité chaude, et c'est le cas de le dire, puisqu'il y a un salon du processeur qui a eu lieu, au même titre qu'on a l'IFA, il y a l'équivalent pour les processeurs. Tu nous en touches un mot, et puis tu nous détailles les petites news que tu avais relevées dans ce salon.
Ben oui, c'est la Hot Chips 28 vient de prendre fin, c'est un symposium qui a lieu dans la Silicon Valley tous les ans, et ça regroupe les grands acteurs qui fabriquent des puces, les gros fabricants. Donc on a AMD, Cisco, Intel, Oracle, Nvidia, ARM, un petit peu tout le monde, et on a souvent des annonces assez sympas. Parfois c'est des choses qui avaient leaké avant, parfois c'est des nouveautés. Et donc c'est des trucs assez techniques, mais c'est le propos de la technique de la CDC, donc allons-y. Alors du coup, au Chips, on avait AMD qui est venu présenter sa nouvelle architecture, l'architecture Zen. Enfin, en tout cas, c'est son nom de code. Et elle est très intéressante parce que, justement, ça peut marquer le retour d'AMD. Alors, il faut se souvenir qu'AMD, on n'en parle pas énormément ici. C'est vrai qu'AMD, il a de gros succès commerciaux, puisque c'est quand même le founder qui fabrique les puces qui sont dans les Xbox One et les PS4. Donc, il y a quand même un certain débouché. Sur les PC, c'est vrai que, hors certains petits laptops d'entrée de gamme, il n'est pas très présent, et puis surtout, AMD s'est complètement effondré sur les serveurs. La faute à une architecture Excavator qui n'avait pas vraiment convaincu à l'époque, et ils se sont fait doubler par Intel, parce que, il faut bien l'avouer, hein, par rapport au processeur Intel, au processeur de serveur en particulier, AMD faisait plus le poids. Alors du coup, ils veulent revenir avec une architecture unique. Alors, il faut se souvenir justement que AMD avait deux types d'architecture. Ils avaient d'une part les gros bulldozers et d'autre part les gros chats. Alors vous aviez bulldozer et excavator dans le section serveur pour bien montrer que c'est des gros processeurs. Et puis vous aviez Jaguar, par exemple, qui équipe la PS4, qui sont des processeurs beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus efficaces au niveau, enfin qui consomment beaucoup moins d'énergie, et qui étaient à l'origine prévus pour les tablettes et les ordinateurs portables. Alors ce sont des processeurs très très différents, avec des cibles très différentes, et on prend complètement le contre-pied avec Zen, qui se veut être une architecture unique pour tout le monde, des super ordinateurs jusqu'au notebook. Et c'est quand même très 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 intéressant, parce qu'ils promettent 40% de performance en plus par rapport à Excavator, et ça dans des modules, en fait, dans des processeurs qui peuvent scaler, quoi, qui peuvent vraiment s'adapter à tous les marchés. Donc il y a des trucs intéressants. Alors on revient sur des processeurs complexes, c'est-à-dire très larges, qui peuvent exécuter de nombreuses instructions simultanées, un petit peu comme les processeurs Broadwell d'Intel. On a des trucs qu'AMD n'avait jamais fait, en particulier le SMT, le Simultaneous Multithreading, qui permet au processeur d'exécuter deux threads par cœur. Donc en fait, on a deux threads logiciels qui arrivent au processeur, même s'il y a un seul cœur, et les threads sont dispatchés sur les unités qui sont libres. C'est quelque chose qui avait déjà été utilisé par Intel et qui permet de maximiser l'occupation du processeur dans un scénario où il y a beaucoup de multithreads, où il y a de nombreux threads. Donc c'est assez intéressant. Et il y a, en gros, à peu près tout a été refait, quoi, hein, par rapport aux autres, par rapport évidemment à Jaguar, quoi, qui n'existe plus vraiment, mais surtout par rapport à Excavator, il y a quand même beaucoup de changements. Et globalement, on a un processeur qui se présente sous la forme d'un quadricœur, qui s'appelle un CPU complexe, qui est donc un CCX, et ce CCX peut être décliné en de nombreuses unités pour s'accommoder un petit peu de tous les besoins. Voilà, donc c'est... Voilà.
Là, on parle, pour bien situer les choses par rapport aux précédentes chroniques telles que tu nous l'avais expliqué, est-ce que ça veut dire que c'est une architecture qui va être en gros un modèle et qui va servir de modèle de conception à tout le reste, ou est-ce que c'est des puces, des composants qui sont reprogrammables? Tu nous avais parlé des processeurs qui étaient reprogrammables, grosso modo, pour les spécialiser dans certaines activités.
Non, du tout. Ce seront toujours les mêmes processeurs, il y en aura juste plus.
D'accord.
On pourra faire varier la fréquence, la taille du cache, le nombre de cœurs.
Ok.
Et c'est tout, mais ça suffit finalement. C'est-à-dire, si tu prends un seul CCX, ben, tu pourras avoir un bon netbook avec ça, et puis un bon notebook même. Et puis si tu en mets deux, trois, si tu augmentes le cache et que tu les mets en, enfin, que tu les montes en fréquence, ça peut te faire des processeurs de serveur, parce que ils peuvent à peu près tout faire. Ils sont équipés pour faire du calcul SIMD. Ils ont des belles unités de calcul flottant. Enfin, voilà, ce sont vraiment des processeurs qui sont très ils sont très polyvalents, et effectivement ça pourrait marquer le retour d'AMD comme un vrai challenger, comme à l'époque de ses Opteron, comme un vrai challenger à Intel, quoi. Donc ce serait quand même, moi j'attends que ça, qu'il y ait un petit peu de compétition dans ce segment-là. Ce serait vraiment cool.
Juste avant que t'enchaînes, tu nous disais tout à l'heure que les pros pour les consoles notamment étaient vachement plus économes en énergie.
Oui, tout à fait.
C'est un fait du hasard ou c'est une volonté, parce que je vois pas en quoi une console de salon doit être moins gourmande en énergie que d'autres machines.
C'est probablement une question de prix, c'est-à-dire que les processeurs, quand ils sont plus petits, en général, ils sont aussi moins chers, et il faut quand même se rendre compte que malgré que c'est vrai qu'une console de salon, ça paraît être un truc assez gros, qu'il n'y a pas vraiment de contraintes thermiques, tout ça, mais en fait, c'est pas si vrai que ça, parce que il faut quand même que tout soit intégré sur une même puce. Tu vois, si la carte graphique et le processeur sont intégrés sur une même puce, c'est toujours avantageux. Ça permet de faire des économies d'échelle. Donc, comme sur une console de jeux vidéo, c'est clairement la partie GPU, carte graphique, qui est importante. La partie CPU, Xbox, Sony et Microsoft ont opté pour des petits cœurs en grand nombre, parce que c'est plus simple et moins cher, finalement, à intégrer que des gros cœurs en plus petit nombre. Tu vois, si on avait eu un Core i7, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ça aurait été un Core i7, je sais pas moi, un Core i7 quadricœur, ça aurait été beaucoup plus cher que d'avoir 8 cœurs Jaguar, par exemple. Donc c'est plutôt une question de coût et de taille.
Ok, je vais essayer de pas te couper autant pour toutes les news. Alors d'autres choses qui ont été présentées, tu avais noté du côté d'Nvidia notamment.
Oui, Nvidia, donc ça y est, on a des informations sur Parker. Alors, il faut se rappeler, donc, Nvidia a sa ligne Tegra, qui sont des systèmes sur puce qui s'intègrent dans des... Alors, c'est toujours pareil. Au début, Tegra, ça s'est intégré dans parfois même dans des téléphones portables, mais plus dans des tablettes. Là, c'est vrai que les K1, X1, on ne les a pas vus dans beaucoup d'appareils. Et il y avait même eu la série des PX qui avait montré une grosse volonté d'Nvidia de passer dans l'univers automobile. Il s'agit plutôt du PX2, qui est la deuxième génération de sa carte, qui est pour les voitures autonomes. Donc c'est une sorte de super ordinateur pour les voitures autonomes.
Ouais, ça doit être un marché incroyable, ça, effectivement, parce que ça avance vite.
Voilà, mais alors, du coup, la puce Parker, elle peut être considérée comme une sorte de X2, comme on avait le Tegra X1, on a aussi, on va avoir donc le Tegra X2 qui va être intégré dans les PX2. Et donc, c'est une nouvelle architecture qui est assez étonnante, finalement, mais qui rappelle un petit peu le Tegra K1 par certains côtés. Alors, il y a donc 256 cœurs CUDA de type Pascal, c'est-à-dire la même architecture qu'on a dans les cartes graphiques de bureau. Et au niveau CPU, c'est assez étrange, puisqu'on a deux cœurs Denver, de deuxième génération, et quatre cœurs à 57. Alors, c'est une architecture qui est hybride, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les six cœurs à la fois, alors que les cœurs sont différents, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout la même, comment dire, ils n'ont pas du tout les mêmes points forts, les mêmes points faibles, si tu veux. Mm-hmm. Et les A57, donc c'est l'architecture standard 64 bits de ARM, ce sont des cœurs qui aujourd'hui sont relativement simples, comparé à ce qui se fait maintenant dans le haut de gamme, qui sont quand même relativement puissants, mais qui sont plus simples quand même que les derniers A72, etc., A73. Mais du coup, face à ces quatre cœurs-là, on a deux cœurs Denver qui, eux, sont des monstres, puisque les cœurs Denver de première génération étaient déjà connus comme étant des cœurs très, très larges et très complexes, et qui avaient des performances très largement supérieures dans le cas où on avait peu de threads, c'est-à-dire on avait des trucs qui n'étaient pas trop parallélisables. Donc, grosso modo,
du coup, ça offre vachement de polyvalence dans les usages, ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, clairement, la volonté... Alors, on ne sait pas si ça a bien marché, parce que dans le KE, ça ne marchait pas si bien que ça, parce qu'il y avait aussi un truc hybride Denver et Cortex A15. Alors là, on a Denver 2, Cortex A57. Et du coup, clairement, la volonté, c'est d'avoir des gros cœurs qui sont très, très puissants quand on a un ou deux programmes qui s'exécutent. Et si on a plus de programmes qui s'exécutent, qui sont plus légers, par exemple, on peut les passer basculer sur le quadricœur à 57. Donc effectivement, c'est vraiment une volonté de polyvalence. Bon, on ne sait pas trop si ça va marcher, mais en tous les cas, c'est le but. Donc Parker, c'est un truc qui va être gravé en 16 nanomètres, et ils promettent... Alors après, c'est toujours pareil, parce qu'ils ne comparent pas avec le X1, donc on ne peut pas savoir. Mais évidemment, ils disent qu'il y a quelque chose. Alors, on passe de 0,6 à 1, donc 40% de performance en plus par rapport à un Twister, c'est-à-dire à ce qu'il y a au A9X, qu'il y a dans je ne sais plus quel iPad, pour être tout à fait honnête. Mais bon, grosso modo, ils disent que ça peut être 40 à 50% plus puissant qu'un haut de gamme actuel. Bon.
D'accord.
C'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes. Et puis surtout, c'est une puce qui est assez complexe, puisqu'elle est équipée ECC, c'est-à-dire correcteur d'erreur, ce qui est important parce que on ne peut pas se permettre d'avoir des bitflips ou des petits problèmes comme ça d'imprécision dans une voiture. Donc c'est un truc qui vérifie l'intégrité de la RAM. Et aussi la virtualisation, le support de la virtualisation qui doit pas mal alourdir la puce également, quoi. Donc voilà,
la 9X, c'est dans l'iPad Pro. Hein,
c'est dans l'iPad Pro, voilà. Donc 40% supérieur à un iPad Pro, d'après les chiffres de Nvidia. Alors, c'est pas mal. Bon, alors pourquoi j'ai mis que... est-ce que ça permettra à Nintendo de rouler sur ses concurrents?
Bah oui, ça m'intrigue, du coup.
C'est tout simplement parce qu'il y a des rumeurs persistantes comme quoi il y aurait une puce Nvidia dans la prochaine NX. Ce sont des rumeurs qui sont apparues alors que, justement, la Shield qui devait utiliser la puce Tegra X2 n'est jamais apparue. Et apparemment, ils étaient en train de parler, enfin de discuter avec un gros client potentiel, et donc ça a enflammé un petit peu les internets. C'est pas une rumeur qui est absurde, parce que déjà, c'est AMD qui truste les PS4 et les Xbox One. Ce serait pas absurde qu'Nvidia soit dans la Nintendo NX, parce que, tout simplement, il semblerait que la Nintendo NX soit un hybride portable et de salon, et que pour la version portable, on ait quand même besoin d'une puce qui soit assez puissante pour faire tourner les mêmes jeux, même si c'est avec des détails un petit peu dégradés, les mêmes jeux qu'une console de salon. Donc il faudrait quand même une puce portable efficace, et cette puce portable efficace, effectivement, Nvidia pourrait la fournir, d'autant plus que ce serait relativement plus facile à programmer, étant donné que c'est la même architecture que dans les GeForce de bureau, ce qui pourrait beaucoup plaire aux développeurs. Donc, c'est clairement pas un X2 qu'il y aura dans une Nintendo NX, ce sera un processeur customisé pour la Nintendo NX, mais néanmoins, une X2 allégée, débarrassée de la virtualisation, et puis un petit peu adaptée, c'est tout à fait possible que ce soit la prochaine puce de la Nintendo NX, en tout cas de sa partie portable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça, parce qu'il y a une rumeur, et c'est pas absurde, comme quoi un Tegra pourrait équiper la prochaine Nintendo NX. Réponse à ça. Vas-y.
Une NX, on pourrait imaginer voir une annonce quand, d'ailleurs ?
Alors, ben, de toute façon, moi, voilà, donc là, j'ai dit, la NX aura une console hybride portable, pas portable. Elle sera équipée d'une NVIDIA de Tegra X2 customisée. Vous pourrez vérifier si j'ai raconté de la merde ou pas début octobre, a priori.
D'accord, début octobre, excellent. Ça traîne depuis mars 2015, quand même, cette console.
Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Non, j'en peux plus.
Écoutez le dernier Tech Café, si vous ne l'avez pas écouté, on en parle un petit moment de Nintendo et des consoles, de manière générale. IBM, de son côté.
Ben, on va être un petit peu plus rapide. Hein. IBM arrive avec des Power 9 qui est bien décidé, là encore, à tenir la dragée haute à Intel sur le marché des serveurs. Alors, faut pas s'en étonner, le marché des serveurs, c'est le seul marché qui soit encore en expansion, qui soit significativement en expansion, parce que bon, le marché des téléphones, en Occident, c'est assez stable, mais dans les pays émergents, ça monte pas mal. Par contre, c'est vrai que les PC, c'est en chute libre. Et clairement, les processeurs, les gros processeurs, on va dire, qui sont un peu puissants, leur débouché, c'est vraiment les serveurs qui, eux, sont de plus en plus nombreux, parce qu'on a de plus en plus de services en ligne, quoi. Donc, clairement, c'est un gros marché. Donc AMD va essayer de le reconquérir, d'en reconquérir en tout cas des parts de marché. Et ben IBM aussi avec les Power 9. Alors donc ce seront les Power 9, ce sont des très très gros processeurs. Attention, ils seront gravés à 14 nanomètres et la graveur se fera en 17 couches, rien que ça. C'est des trucs qui ont une cache de niveau 3 qui peuvent aller jusqu'à 120 mégaoctets, quoi. Enfin, c'est des trucs énormes, c'est absolument énorme. Alors, ils seront eux aussi, très scalables. J'ai du mal à tout approuver, mais bon, français, ce moment-là, tu sais, c'est-à-dire, on pourra avoir des plus ou moins grosses familles, quoi. Tu vois, ce sera un petit peu polyvalent quand même si ça sera quand même des grosses machines. Puis il y aura 4 variantes de Power 9, il y aura jusqu'à 24 cœurs physiques qui peuvent supporter 4 threads chacun. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 4 x 24, c'est-à-dire 48 x 2, c'est-à-dire 96 threads simultanément, en parallèle. Donc c'est quand même pas mal, et on aura des déclinaisons avec des processeurs optimisés pour des cartes mères dual socket ou plus de 4 sockets, 4 et plus. Donc là on tape dans le très très haut du panier. Et en plus, on aura des droits de l'Altivec 3 pour avoir des gros gros vecteurs. Et surtout, la possibilité d'interfacer directement avec le processeur des puces extérieures, des puces tierces. J'en avais parlé, hein, c'est le CAPI. Le CAPI, c'est la possibilité, sans passer par le bus interne de la carte mère, le bus PCI, d'aller parler directement à d'autres accélérateurs. Donc si vous avez un accélérateur, par exemple, qui s'occupe de gérer très très bien des bases de données, ben, vous n'avez pas besoin de passer par le bus, ni même par la RAM, vous pouvez parler directement au processeur via une interface CAPI, ce qui permet au Power 9 d'être customisé, on va dire, pour certaines tâches, de manière beaucoup plus poussée que les Xeon, qui, eux, n'ont pas ce type d'interface. Donc là, ça peut être un truc assez sympa pour IBM.
Ok, et puis du côté de ARM, ARM, je ne sais jamais comment il faudrait le prononcer.
Moi, je dis ARM aussi. Ouais. Moi, je dis ARM aussi. Voilà. Donc ARM qui est japonais, je rappelle. Non, on avait parlé. Écoute, ARM aussi. Hein, alors, on est sur le marché des serveurs, c'est pas du tout un secret, hein, mais c'est vrai qu'il est très peu présent dans ce secteur pour le moment, mais il est beaucoup plus présent dans la mobilité, dans tout ce qui est des petits appareils. Mais malgré tout, ils continuent et ils vont introduire un nouveau set d'instructions au ARM V8. Donc l'ARM V8, c'est la version 64 bits de l'architecture ARM. 64 bits, c'était déjà aussi un appel du pied au serveur, hein, d'avoir une architecture 64 bits, ça sert beaucoup plus dans un serveur que dans un téléphone mobile d'avoir le 64 bits. Mais bon, pour l'instant, ça n'avait pas des masses décollées. Donc là, ils vont rajouter un set d'instructions qui va permettre de travailler sur des vecteurs qui auront une taille comprise entre 128 et 2048 bits. Ce qui permet donc de traiter non pas des blocs de 64 bits d'instructions, mais des ensembles beaucoup beaucoup plus gros en parallèle. Bah, ce qui est forcément un avantage. Hein. Donc il faut savoir que, bien entendu, les concurrents font pareil. Ils font du SIMD, et le SIMD de chez Intel plafonne à 256 bits. Donc avoir la possibilité de traiter jusqu'à 2048 bits en parallèle, effectivement, ce serait quelque chose d'assez intéressant. D'autant plus que ARM est quand même assez connu pour faire des puces qui sont plutôt économes, et donc qui ont un rapport performance par watt assez intéressant. Donc c'est clairement un truc qui pourrait être intéressant et qui va se retrouver dans un véritable ordinateur, un ordinateur de Fujitsu, qui va s'appeler Postka. C'est un ordinateur japonais qui aura, ben, voilà, qui sera équipé de ces puces avec donc ça va s'appeler ARM V8A. Voilà. Donc c'est là encore la possibilité de voir des ordinateurs toujours plus puissants et toujours plus économes, ce qui est toujours cool.
Et ce qui est le propre de la chronique des composants, à chaque fois on relaie toujours plus puissant, toujours plus économe en énergie.
Ouais, un jour il faudra qu'on relaie des trucs plus pourris.
Ouais, plus naze et qui consomme vachement plus d'énergie.
Exactement.
Comme ça, on fera un retour vers le futur de la chronique des composants. On a parlé d'Intel aussi dans Tech Café. Là, pour le coup, si je vous incite pas à écouter le précédent Tech Café, je sais plus quoi faire. Mais on va en reparler aussi. Il y a des petites news aussi du côté de chez Intel.
Oui, bah alors justement, donc au chips, il y avait pas, j'ai pas vu énormément de trucs super super fous. Ils ont détaillé un petit peu l'architecture Skylake, mais finalement, elle est très proche de l'ancienne. Il n'y a pas des masses de trucs à dire. Néanmoins, il y a quand même des trucs, des news Intel qui sont hors hot chips, qui sont relativement intéressantes. Il y a une publication d'ailleurs qui est assez rigolote. J'ai vu passer par exemple qu'avec des chercheurs de l'université de Caroline du Sud, ils avaient réussi Caroline du Nord.
Les pauvres. Je pense que ça nous fait ni chaud ni froid, mais eux là-bas, s'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, ils seront peut-être vexés.
Ah bah oui, quand même. Donc, ouais, donc c'est une recherche qui porte sur la communication multicœur. C'est vrai que comme on a de plus en plus de cœurs, c'est utile d'avoir une communication entre les cœurs sur le même processeur qui est efficace. Ouais, on a vu qu'il y avait des processeurs donc quadricœurs dans pratiquement tous les téléphones. Dans les Helio, la X10, ça peut aller jusqu'à 8 cœurs. Enfin bon, c'est vrai que ça peut être efficace de partager les infos quand même. Et donc, les mecs ont designé une interface, comment dire, un matériel hein, qui doit être gravé dans le chips, qui permet de multiplier les performances intercœurs, et donc, dans certains cas, les performances tout court, entre 2 et 10 fois. Donc c'est quand même pas mal, et c'est probablement un truc qui sera utilisé dans les prochains processeurs Intel. Quoi.
Qu'est-ce que ça se raconte, un cœur, un autre cœur?
Ben, tu sais, parfois, c'est intéressant, tu vois, par exemple, tu as un cœur, il peut dire à un autre cœur, tiens, j'ai fini un calcul, c'est le résultat, c'est ça. Du coup, ben, vas-y, continue, moi je fais autre chose pendant ce temps, tu vois. Ce genre de truc.
D'accord.
C'est les communications, ça peut être juste, ah, j'ai fini, on peut continuer, tu vois. Parce que, par exemple,
comme le font deux bons collègues ou deux bons ouvriers.
C'est exactement ça. C'est comme un espèce d'atelier. C'est pas une chaîne de montage forcément, mais c'est une espèce d'atelier. Et puis parfois, il y a quelqu'un qui a besoin du calcul, du résultat d'un certain calcul. Donc, il attend effectivement que l'autre lui envoie. Et ben, si on envoie directement, c'est plus efficace, quoi. Voilà, ce genre de truc. Ce genre de truc.
Très bien. Et tu nous parles gros sous aussi ou pas?
Ben alors, ben justement,
par contre, t'avais pas terminé.
Justement, Intel. Non, mais alors justement, tu vois, quand on est Intel, il faut être sur tous les fronts, quoi. Donc, dans Tech Café, on a dit qu'ils étaient sur le front de la réalité mixée, augmentée, virtuelle et tout et tout.
Real sense.
Il faut bien aussi qu'ils soient sur le marché de l'intelligence artificielle et tout ça, parce que ben c'est à la mode, mais c'est plus qu'à la mode, hein, c'est carrément un enjeu quoi, économique autant que scientifique. Et donc, ils ont racheté une petite société qui s'appelle Movidus, dont je voulais parler, hein. À un moment je voulais parler de Movidus, et puis bon, finalement j'ai pas eu trop l'occasion, mais parce que c'est très intéressant. Movidus, c'est une petite boîte qui fabrique des puces qui permet de donner des yeux aux robots. Alors c'est très très schématique, hein. Mais
c'est des webcams?
Non, justement c'est pas des webcams, en fait c'est plutôt le cortex visuel qu'il y a derrière la webcam. Parce que une webcam, c'est bien, ça prend des images, mais ça a aucune idée de ce qu'il y a dessus. Pour avoir une idée de ce qu'il y a dessus, il faut de l'intelligence derrière. Et l'intelligence derrière, ben, en général, c'est du gros, voilà, c'est du gros traitement. Et ben, sur les drones, tu peux pas mettre des gros ordinateurs, quoi. C'est normal, c'est assez léger, il faut des tout petits trucs. D'où l'importance d'avoir des microprocesseurs qui soient très très efficaces et qui peuvent faire les calculs en prenant très peu de place et très peu d'énergie. Et c'est exactement ce que fait Movidus avec ses processeurs Myriad 2, qui ont un format très intéressant, puisqu'il s'agit d'une clé USB. Et c'est une clé USB que tu peux planter, par exemple, dans un Raspberry Pi. Donc, tu as un Raspberry Pi, hein, avec un ordinateur normal, avec ton Linux dessus. Mais bon, si tu fais tourner un système de neurones dessus, un réseau de neurones dessus, ça va pas être très très rapide. Ça va même être carrément affreux, quoi. Donc, ben, ce que tu fais, c'est très simple. Tu prends une petite clé Movidus, tu la plantes dans ton Raspberry Pi, et hop, miraculeusement, ton Raspberry Pi voit. En tout cas, il peut interpréter un certain nombre de trucs, tout simplement parce que les réseaux de neurones que tu fais tourner sur la Myriad 2, ils vont des dizaines de fois plus vite que le Raspberry Pi tout seul pour faire ça. Et du coup, ils ont fait une petite clé qui s'appelle le Fathom. Et cette clé, elle est capable donc de donner un petit coup de cerveau, c'est une sorte de petit cerveau que tu peux mettre comme ça à n'importe quel ordinateur qui a un port USB. Et donc c'est super intéressant parce que ça amène justement au... Alors d'une part, c'est pour ça qu'Intel l'a racheté, hein, c'est tout simplement parce que Movidius a une expertise dans la vision par ordinateur qui est très utile en robotique et en intelligence artificielle pour la reconnaissance des trucs sur les photos, etc. Et parce qu'ils sont propriétaires d'une puce très spéciale, le Myriad 2, donc, qui préfigure probablement un nouveau type de puce qui va être très très courant dans les années à venir, qui existe déjà, hein, qui sont les puces orientées pour l'accélération du deep learning et du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, pour le dire vite. Alors, comme on a des processeurs qui sont spécialisés dans le traitement du signal, les DSP, ou dans l'affichage des graphiques, les GPU, les cartes graphiques, et bien bientôt on aura des processeurs neuronaux, ou en tout cas des processeurs qui seront faits pour le deep learning. Et donc le Myriad 2 en est un, mais le plus connu, en tout cas si vous suivez l'actu, c'est probablement les TPU de Google, qui sont utilisés dans les serveurs de Google pour faire marcher leur réseau de neurones, et faire marcher leur intelligence artificielle la plus célèbre de ces derniers mois, c'est-à-dire AlphaGo, celle qui a battu le champion du monde de Go.
Bien sûr. Juste une question, qu'est-ce qui fait qu'un... Alors, c'est peut-être une vision très erronée des choses, mais quand tu vas sur le site de Movidius, tu vois grosso modo 4 gugus qui ont vraiment des têtes d'informaticiens, bon, des vieux informaticiens, vraiment des têtes d'informaticiens, t'as l'impression que c'est une petite boîte, quoi. T'as l'impression que c'est... Bon, puis c'est sans doute beaucoup plus que ça, mais ça me donne l'impression qu'Intel a racheté Movidius alors qu'ils auraient très très bien pu, avec la recherche et développement qu'ils ont, arriver à des solutions similaires. Est-ce que ça veut dire que Movidius a trouvé une recette miracle et que c'est la recette du Coca et que personne n'a réussi à la copier? Est-ce que c'est qu'ils ont des brevets à mort dessus qui protègent vraiment ce type de mise en œuvre ou c'est une autre raison qui fait que Intel a racheté Movidius?
C'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire ils ont un produit, Movidius a un produit qui fonctionne. Donc c'est un produit qui est très certainement protégé effectivement par un certain nombre de brevets. Ils ont un framework de développement, ils ont une puce qu'ils ont designée qui leur appartient, qui donc maintenant appartient à Intel. Donc effectivement Intel aurait très bien pu financer de la R&D pour ça, mais finalement s'ils peuvent l'acheter, ils ont un produit qui est déjà fait et déjà fini, et qui probablement peut être intégré ou étendu et intégré à d'autres trucs, quoi. Donc c'est probablement rentable de leur point de vue. Après c'est toujours difficile, tu sais.
Oui, bien sûr.
D'autant plus
c'est plus de l'économie.
Oui, après, d'autant plus que je ne sais pas exactement pour combien...
J'allais te poser la question.
Eh ben,
Un ou deux Instagram.
Je ne sais pas. Non, beaucoup moins que ça, je crois. Beaucoup moins que ça. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit finalisé, l'acquisition. Donc, je n'ai pas les chiffres, très honnêtement. Pour le moment,
ça ressemble à une grosse histoire de brevet, quand même. Hein.
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais là n'est pas le problème. Hein. Movidius, ils ont une expertise. Et donc, Intel rachète cette expertise. Tout simplement. Hein. Et bon, c'est une expertise que, évidemment, ils ont les moyens de développer. Google a utilisé, quand il a développé ses TPU, alors TPU, ça veut dire Tensor Processing Unit. Donc, ça veut dire que c'est une unité de calcul de tensoriel, voilà, sur les tenseurs. Alors, un tenseur, qu'est-ce que c'est? Bon, on va faire très simple, un tenseur, c'est un tableau de nombres, voilà, c'est un tableau Excel, globalement. C'est vraiment un tableau Excel, dans le sens où vous pouvez avoir un tableau qui est que sur une ligne, un tableau qui est avec des lignes et des colonnes, ou vous pouvez avoir un tableau qui a des lignes, des colonnes, et qui est sur plusieurs couches.
C'est les couches. Vous en avez parlé d'ailleurs dans l'épisode spécial Deep Learning.
C'est probable. En tous les cas, effectivement, quand tu fais des calculs de Deep Learning, très souvent tu fais des calculs matriciels, ou par extension tensoriels. Une matrice, c'est un tableau carré. C'est un tableau avec que des lignes et des colonnes. Un tenseur, ça peut avoir des lignes, des colonnes et des couches, si tu veux. Voilà. Et puis des couches de couches aussi. Bon, après, tu peux aller très loin. Mais bon, globalement, ça fait des calculs avec des tableaux, comme ça, d'une certaine manière, avec certaines règles, et donc il est intéressant de faire ces calculs de manière très très rapide. Alors, les calculs matriciels, évidemment, un processeur peut les faire, un GPU peut les faire souvent plus rapidement, hein, parce que c'est des trucs qui sont très très facilement parallélisables. Alors, qu'est-ce que les TPU ou les Myriad ont en plus pour être aussi efficaces dans certains trucs particuliers? Alors, ben, c'est tout simplement parce que c'est un quand tu fais du deep learning, très souvent, tu fais des calculs matriciels, mais tu n'as pas les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrées, mais des fois, il peut y avoir beaucoup d'entrées qui sont nulles, par exemple, donc on peut avoir des matrices très creuses, donc c'est utile d'avoir des processeurs qui sont capables de traiter des matrices creuses, c'est-à-dire des matrices où il y a beaucoup de zéros, sans forcément prendre en compte tous les zéros, parce que si tu prends en compte tous les zéros, bah, évidemment, voilà, tu perds un petit peu en efficacité. Et en plus, il y a le truc qui est que quand tu fais des trucs qui sont assez souples, c'est-à-dire quand tu fais de la reconnaissance, par exemple, de forme, tu n'as pas forcément besoin de faire des calculs avec plein de décimales après la virgule. Tu vois, c'est-à-dire si le pixel n'est pas exactement de la même couleur ou quoi, ça ne change pas vraiment le résultat final. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux tolérer une certaine approximation, tout simplement, et ça veut dire que tu peux souvent faire des calculs avec moins de bits que ne le font les processeurs standards.
Standard, c'est vraiment un usage particulier, quoi.
Et oui, un processeur standard, ça fait des calculs sur 32 bits si c'est un GPU, sur 64 si c'est un CPU, et puis souvent t'as pas besoin de la moitié des bits, quoi. Ce qui fait que globalement, avec un truc qui travaille sur 16 bits, eh ben, tu es deux fois plus efficace, ni plus ni moins. Et d'accord. Puis, en ajustant un petit peu mieux, tu peux encore gagner. Et du coup, c'est très utile de faire des processeurs comme ça qui font des calculs matriciels un peu moins précis, mais beaucoup plus rapides, et qui ont des instructions spécifiques pour des structures matricielles spécifiques. Et ça permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les trucs standards.
D'ailleurs, ça donne l'impression qu'ils ont une vue d'ensemble et une vue plus détaillée qui est capable de traiter des gros volumes de données, quoi.
Bah, tu sais que donc Google a déployé ses TPU. Alors, un TPU, ça se présente sous la forme d'un truc qui ressemble un peu à un disque dur, sauf qu'au lieu d'avoir un disque dur, vous avez une sorte de radiateur dessus.
Je croyais que c'était un composant, moi, d'accord.
C'est un composant, oui, mais c'est un composant. Hein. C'est un composant, d'accord, mais ça se présente sous la forme d'une carte, avec un gros radiateur dessus, que tu plantes en rack, un petit peu comme une carte graphique, finalement. Tu les plantes en rack, comme ça, et tu fais une flotte, tu fais un gros serveur de TPU. Et Google a une flotte de TPU qui est capable, à l'heure actuelle, de retrouver tous les textes de la base de données de Street View en moins de 5 jours. Alors, je précise ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les rues du monde qui ont été mappées par Google possèdent des textes à l'intérieur, des panneaux, et qu'ils sont capables de transcrire tous ces textes en vrai texte, donc de lire tous les panneaux. C'est comme si vous lisiez tous les panneaux du monde en moins de 5 jours.
Non, mais justement, ils lisent pas tous les panneaux du monde. Enfin, j'imagine que quand ils font une... Enfin, c'est quoi? C'est vraiment qu'ils les lisent tous ou c'est qu'ils sont capables de faire une recherche et de trouver parmi tous les panneaux du monde? Tu vois ce que je veux dire?
Ben, ils sont capables de localiser là où il y a des textes et de transcrire les textes.
Oh la vache.
Tous les panneaux du monde, globalement. Et en ça, en moins de 5 jours. Chaque TPU est capable de traiter plus de 100 millions de photos par jour.
Ils en ont combien des TPU pour donner une échelle? Ils en ont... 10, 100, 1000,
des milliers. Ce sont des ASIC, donc ça veut dire que ce sont vraiment des puces qui ont été gravées spécifiquement pour Google, comme des processeurs standards. Comme des,
ça veut dire quoi? Qu'il y a quelques armoires dans une salle chez Google qui s'occupe de ça, quoi.
Qu'il y a, pas mal d'armoires, à mon avis, oui. Je ne sais pas combien d'armoires, je pense que ce n'est pas public, honnêtement, comme information, ça, combien ils en ont. Mais je pense qu'ils en ont des milliers, oui, clairement. Les AlphaGo, enfin, c'est toujours pareil, tout c'est à la fois grand et petit, parce que quand tu vois la puissance déployée et les capacités que ça octroie, c'est vrai que c'est pas énorme. Tu vois, AlphaGo, par exemple, c'est un truc qui a la taille, il me semble que d'avoir vu qu'il y a la taille d'environ 3 gros frigos, quoi.
Ah, c'est tout.
Donc ça veut dire que c'est très peu, parce que si on compare cette taille-là avec la taille de Deep Blue qui a battu Kasparov, et qui lui faisait beaucoup plus de frigos, globalement.
Et tout ça ça va se raisonner en nombre de frigos.
Bah, c'est un peu ça, honnêtement, ça, c'est un peu l'idée, quoi.
Bien sûr.
Du coup, quand tu sais que c'est pour jouer aux échecs, qui est beaucoup, beaucoup moins complexe que le Go, c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant.
Excellent, excellent. Bah parfait. D'autres choses autour de l'intelligence artificielle, du coup?
Ben oui, parce que alors du coup, voilà, ça c'est vrai que c'était intéressant à voir parce que ça montre que on est là dans la phase où le deep learning et l'intelligence artificielle deviennent des domaines qui sont tellement importants qu'on commence à fabriquer des puces dédiées pour accélérer ce truc-là. Comme on fabrique des puces dédiées pour décoder le MPEG, quoi. Tu vois, c'est vraiment de cet ordre-là. Aujourd'hui, on a tous des puces qui permettent de décoder la vidéo. Et ben, bientôt, on aura tous des puces qui permettront de faire des réseaux de neurones et d'avoir de l'intelligence artificielle dans nos appareils.
Alors, j'allais dire, au-delà d'être important, j'ai le sentiment, vu de l'extérieur, que c'est quelque chose qui nécessite de repenser la façon dont on fonctionne. C'est-à-dire qu'on le voyait bien, si on utilise des composants tels qu'ils existent aujourd'hui, on arrive à des solutions, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisation à faire. Et on se rend compte qu'en repensant le truc dès le départ pour qu'il fasse ça, c'est beaucoup plus efficace. Et j'imagine qu'il y a un cercle vertueux d'ailleurs. J'imagine que parce qu'on voit qu'il y a un besoin, il y a des composants. Comme on voit qu'il y a des composants, bah, ça apporte des usages et ça crée une espèce d'émulsion qui fait que, ouais, aujourd'hui, dans nos smartphones, ils arrivent à trier tout seuls nos albums, à reconnaître les voitures et à nous suggérer des vidéos qui sont intelligemment composées à partir de tout ça, quoi.
Alors oui, tout à fait. Alors il y a toujours l'aspect algorithmique, hein. Donc on améliore sans cesse les algorithmes et on les intègre et on s'en sert et on les intègre dans de plus en plus de choses. Donc dans les iPhones, c'est vrai qu'il y a beaucoup de machine learning qui soit fait d'ailleurs avant, si tu veux, par Apple et qui soit intégré au téléphone ou qui soit fait directement sur place. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que les puces accélératrices d'intelligence artificielle, donc Qualcomm avait déjà présenté des trucs dans ce style-là, donc Movidus là, a déjà fabriqué une petite clé USB et des puces qui sont implantables hein, dans des téléphones qui seraient implantables au besoin. Donc tout ça, c'est des choses effectivement qui vont dans le sens de toujours plus d'intelligence, au sens intelligence artificielle, dans le quotidien. Ça, c'est clair et c'est net, oui. Et donc, bon, effectivement, quand tu vas par là, tu peux te poser la question, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des puces accélératrices qui sont basées sur les mêmes lois, sur les mêmes composants que les processeurs standards, mais qui les optimisent juste dans des domaines qui sont spécifiques au machine learning. Tu vois, comme je disais, par exemple, la précision des calculs. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça et imiter plus le vivant encore? La réponse est probablement oui.
On peut toujours faire mieux.
Et clairement, IBM et HP sont sur les rails. Alors, ils ont des approches qui sont un peu différentes, mais qui se rejoignent quand même par certains côtés. Alors là, par exemple, IBM a démontré qu'ils avaient été capables de fabriquer un truc qui ressemble à un neurone, qui ressemble vraiment à un neurone réel, un neurone biologique, mais en utilisant un nouveau type de composant, qui est un composant à changement de phase. Donc, c'est un. Alors, les composants à changement de phase. C'est un nouveau truc. Il faut imaginer ça, c'est assez simple. Là. C'est une sorte de bloc, de petit bloc de matière, de matériaux. Alors, c'est un matériau imbitable. Hein. C'est un chalcogénide ou des trucs du genre. Ouais. Donc, c'est absolument imbitable. Et ce truc-là est amorphe. Donc, il n'a pas de structure. C'est un peu le bordel à l'intérieur. Et quand il est dans cette phase-là, il oppose une forte résistance au courant. Bon. Donc certains de ces trucs, effectivement, quand vous lui appliquez de la chaleur, donc que ce soit avec un laser ou avec par exemple du haut voltage ou que ce soit, vous réalignez les atomes à l'intérieur. Donc soit vous fabriquez carrément une structure cristalline directement, soit vous fabriquez des dendrites, c'est-à-dire il y a des espèces de ponts qui se font comme ça, d'ordre au milieu du chaos, et dans tous les cas, ça fait baisser la résistance et le truc devient plus ou moins conducteur. Le but, c'est d'utiliser cette résistance variable pour coder de l'information ou pour la traiter. Et là, dans le cas du neurone artificiel d'IBM, ce qui a été fait, c'est qu'on a utilisé donc un certain nombre d'entrées, donc comme les dendrites d'entrée, et il y a une sortie, l'axone, et dans un neurone, pour schématiser, les entrées sont sommées, elles passent par une fonction de transfert, une fonction de seuil, et ça active ou pas l'output, quoi, hein, la sortie. Alors là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font à peu près pareil. L'output, il est sommé par le neurone qui est composé donc de cette espèce de matière qui donc oppose une grosse résistance et qui donc n'émet pas de pic, quoi, ne donne pas d'output, mais à partir d'un certain niveau de stimulation, par les dendrites, eh ben, ça va faire changer la matière de phase, et ce changement de phase va donner un output. Et donc c'est un comportement qui est proche de celui d'un neurone, jusque dans le fait qu'il est un petit peu stochastique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand ça va se passer. Donc IBM a sa petite recette pour faire des trucs neuromorphiques, parce que c'est comme ça que ça s'appelle en fait, hein. On fait des puces neuromorphes.
C'est bluffant de voir qu'en fait on copie la nature.
On est en pleine science-fiction totale, on fait des puces neuromorphes. Enfin, en tout cas, IBM fait des recherches là-dessus depuis quelques temps, et c'est pas le seul évidemment. Hein. Et Hewlett-Packard, qui lui aussi fait des recherches sur les memory stores, donc ces fameux petits composants à résistance variable, depuis quelques temps, eux aussi, ils font des recherches là-dessus, ils essaient d'appliquer au maximum leurs trouvailles, et effectivement, ils ont une autre manière de le faire qui est assez rigolote. Ils ont, tout dernièrement, ils ont publié quelque chose sur une puce qui fait des produits de matrice. Alors, c'est assez difficile, parce que quand on le voit dans les news, on lit tout de suite, c'est une puce qui imite le cerveau, tout ça. Bon. En réalité, là là, c'est beaucoup moins impressionnant que ça, parce que finalement, quand on lit le truc, on se rend compte que ce qu'ils ont fabriqué, c'est déjà génial, attention, hein, c'est une espèce de grille de memory store. Chacun de ces memory stores, donc ces petites résistances variables, elle va justement dans sa résistance encoder pour la valeur, donc une valeur de la matrice, hein. Donc je disais, une matrice, c'est comme une sorte de, donc de tableau à deux dimensions, un tableur Excel. Donc votre tableur Excel, vous allez le mapper sur une espèce de grille comme ça de memory store, et grâce à ça, donc si vous voulez faire un produit de matrice, ben vous allez encoder les deux matrices, et ensuite vous allez faire un circuit qui physiquement, hein, de manière presque naturelle, va faire le produit matriciel, mais directement au niveau memory store. C'est-à-dire, vous allez avoir des transferts de charge entre les composants qui vont encoder les valeurs du résultat directement. Et du coup, c'est un paradigme qui est très différent de ce dont on a l'habitude, parce que le calcul et les données se situent au même endroit, se font au même endroit. Tu vois, alors que d'habitude, un processeur, il va chercher les données dans sa mémoire, il fait son petit calcul dans son coin, après il stocke le résultat dans la mémoire. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, on a les données qui l'ensemble de nombres, la grille, le tableau de nombres qui est directement au cœur du composant qui va faire le calcul. Tu vois, donc il n'y a plus de différence entre la donnée et le calcul qui est fait.
Ouais, d'accord.
Donc c'est vrai que c'est assez différent conceptuellement. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'en utilisant ça, on arrive à faire des produits de matrice qui sont entre 1000 et 10 000 fois plus efficaces, c'est-à-dire qui se font aussi, sinon plus vite qu'avec des ASIC, mais en consommant entre 1000 et 10 000 fois moins d'énergie. Donc on a des taux d'efficacité qui sont absolument astronomiques, et on a 99% de précision préservée en utilisant cette méthode. Parce que bien entendu, on va avoir des erreurs. Là encore, comme je disais tout à l'heure, quand on fait du machine learning,
c'est plus acceptable que sur du graphisme.
Exactement, tu vois, on a une tolérance à l'erreur quand on fait du machine learning, et là effectivement, quand on fait le produit de matrice de cette manière-là, en utilisant des grilles de memory store, on a aussi un petit taux d'erreur, mais ce taux d'erreur, il est totalement admissible dans le cadre de l'application, par exemple d'une application de reconnaissance de forme qui a été utilisée ici pour valider l'étude. Donc on a quand même un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on a un composant qui est capable de stocker des données et de les traiter en même temps, et c'est pour ça que dans les news on voit que ce truc est analogue au cerveau, parce qu'effectivement dans le cerveau humain, il n'y a pas de différence entre la matière qui calcule et la matière qui stocke l'information.
Ouais.
Tu vois, il n'y a pas de processeur de mémoire. C'est le cerveau est à la fois le processeur et la mémoire. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu analogue au fonctionnement cérébral, mais c'est pas du tout parce que on a des grilles de neurones et que ces neurones ressemblent à des neurones biologiques. Absolument pas. Tu vois, c'est vraiment très très différent.
Ouais, mais c'est vrai que le premier cas que tu... Oula, ça va? Tout va bien? Allô?
Oui, oui.
Ah, t'es tombé, non, ça allait?
Non, ça va, bon. Ça va.
La proposition de la solution d'IBM, je trouve qu'elle a un côté encore plus magique dans la comparaison avec le fonctionnement du vivant, quoi. Mais effectivement, c'est très très impressionnant dans les deux cas de toute manière. Tu précisais aussi, toujours dans l'intelligence artificielle, ça pulse autour de la PCM et des MemRestore.
Alors oui, bah oui, parce que donc du coup j'ai pas mal parlé de MemRestore et de résistance variable, on va dire, dans ce chapitre. Et finalement, c'est normal parce que c'est un truc vraiment à la mode. Et le PCM, donc les Phase Change Memory, ce sont donc les mémoires à changement de phase, c'est probablement l'avenir de la mémoire au sens large. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est une mémoire qui a le potentiel de remplacer à la fois les SSD, les disques durs donc, mais aussi
la RAM
et potentiellement le cache des processeurs.
Ouais,
ce qui veut dire qu'on pourra avoir cette espèce de graal complet de la mémoire universelle qui pourrait complètement détruire cette hiérarchie de la mémoire qui empoisonne un petit peu hein, les ordinateurs depuis toujours, hein, puisque depuis que les processeurs sont devenus plus rapides que la mémoire, il a fallu faire du cache. Comme on a des mémoires qui sont moins rapides que les disques durs et que les disquettes, il a fallu faire, tu vois, on a toute une hiérarchie comme ça de mémoire. Donc si on avait une mémoire unique pour tout, ça serait extrêmement plus simple et ce serait aussi beaucoup plus efficace. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, il faut une rupture technologique. Cette rupture technologique, elle pourrait venir de ces fameux composants à changement de phase. Donc j'ai expliqué le principe, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire on a une résistance qui change parce que la matière change de phase sous l'impulsion, alors soit de courant haute fréquence, comme c'est le cas dans l'étude que je vais mentionner, ou bien de chaleur, par exemple, ou bien de champ magnétique, après ça dépend des matières qu'on considère, quoi. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que le changement de phase en question, dans certaines matières, peut se faire sur un ordre de temps de la picoseconde. C'est-à-dire 1000 fois plus vite. Pico, c'est 1000 fois plus petit qu'une nanoseconde. Et la nanoseconde, c'est plutôt le temps de...
Impressionnant, quand même.
Voilà, c'est une mémoire standard. Une mémoire, c'est plutôt de l'ordre de la nanoseconde. Une mémoire RAM, c'est plutôt de l'ordre de la nanoseconde. Et donc, on serait 1000 fois plus efficace que ça, quand même. Ce qui veut dire qu'on pourrait effectivement utiliser la PCM pour remplacer la RAM facilement et peut-être même pour remplacer le cache carrément des processeurs. Bon. Le problème, c'est que ce sont des études en laboratoire qui ont utilisé donc des courants de très haute fréquence de l'ordre du terahertz pour faire changer les trucs de phase.
Et ça doit être un sacré coup de jus.
Ouais, c'est un petit peu bon. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore du tout des produits finis. On n'est pas du tout encore en production industrielle, mais c'est au moins ça montre que sur le principe, c'est quelque chose qui est très prometteur.
Ouais, d'accord. Excellent. Des terahertz, n'importe quoi, n'empêche. Tu avais tout ton dossier, sac de nodes. Il est peut-être temps de mettre les mains dans le cambouis des nanomètres, Guillaume.
Ben ouais, parce que bon, je dis toujours des trucs, hein, voilà, je dis toujours, lui, il grave à 22 nanomètres, c'est nul, parce que lui, il grave à 14 nanomètres, c'est vachement mieux.
Moi, je me suis mis ça dans la tête, effectivement. Et j'ai compris que plus c'était petit, mieux c'était.
Alors, j'ai raison. Effectivement, c'est mieux en 14 nanomètres qu'en 22, en général. Seulement, qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce 14 nanomètres et ce 22 nanomètres ? Eh bien, la réalité, la vérité, je vais vous l'avouer, c'est que ça veut strictement rien dire.
Et là, tu vas nous décevoir. Je n'ai plus aucun intérêt d'écouter toutes les autres chroniques des composants, du coup.
Et oui, parce que le problème, c'est qu'à une époque... quand on parlait de une gravure à tant de nanomètres, ça avait un sens puisque ça représentait soit la taille de la porte, soit la demi-taille de la porte, soit l'espace entre deux connexions. Enfin, en tout cas, ça avait une c'était la largeur de la grille. À une époque, c'était la largeur de la grille. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement n'est plus vrai depuis assez longtemps en fait. Et c'est vrai que alors il faudrait que je retrouve un document intéressant. Donc voilà, par exemple, si on prend le processus d'Intel à 22 nanomètres, donc celui qu'on appelle le 22 nanomètres et qui est vendu comme ça, eh bien, la taille de la porte, c'est-à-dire la taille de la grille, hein, la gate pitch, il est de 90 nanomètres. La taille des interconnexions, elle est de 80 nanomètres.
Et c'est des escrocs en fait, c'est des menteurs.
Et la taille de la... Alors parce que comme c'est du FinFET, c'est-à-dire on a des FINs, c'est-à-dire des... Tu sais, c'est des sortie gate. Donc la porte, en fait, elle, le gate, la grille, elle est relevée comme ça. Donc cette taille-là, c'est 60 nanomètres. La taille du petit aileron là-dessus, c'est des petits ailerons maintenant qu'on fait. Bon. Mm-hmm. Donc c'est 60 nanomètres. Et quand tu passes aux 14 nanomètres, en réalité, cette taille-là, la taille du petit aileron, elle est de 42 nanomètres. Celle de la porte, elle est de 70. Et l'interconnexion, elle est à 52 nanomètres. Donc ça veut dire...
Ben oui, c'est trop, c'est des menteurs.
Et bien effectivement, entre le 22 et le 14 nanomètres, il y a effectivement une véritable amélioration, puisqu'on a effectivement une miniaturisation qui est supérieure. En général, elle est de 30%, je crois. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que finalement... aujourd'hui, l'appellation donc 14 nanomètres, 10 nanomètres bientôt, puis 7, puis 5 nanomètres, c'est une appellation commerciale qui est régie par l'ITRS.
Putain, c'est énorme, t'es en train de décevoir une nation entière qui écoute la chronique des composants, quoi.
Non, parce que c'est pas forcément... ça veut quand même dire...
14 nanomètres, et c'est pas 14 nanomètres.
Eh bien, écoute, non, il sait pas 14 nanomètres. Il n'y a pas de truc qui soit à 14 nanomètres, même si ça veut quand même dire qu'à chaque transition de génération, on a au moins 30% de miniaturisation en plus.
Bien sûr, il y a une progression. Et ça... Bien sûr.
Voilà. Et alors, ce qui est le plus intéressant, c'est que selon les fondeurs, c'est-à-dire selon les fabricants, le 14 nanomètres ne veut pas dire la même chose. Par exemple, Samsung est à 14 nanomètres comme Intel. Sauf qu'il faut aussi des trigates, hein, donc il faut aussi des petits transistors avec des ailerons comme ça. Mais la taille de l'aileron, elle est de 42 nanomètres chez Intel et de 48 nanomètres chez Samsung. D'accord. Si tu prends la largeur de la grille, c'est 70 nanomètres chez Intel et 84 nanomètres chez Samsung. Et l'interconnexion, elle est de 52 chez Intel et 64 chez Samsung.
Donc, tu vois ça a des répercussions, ça, ou pas ?
Ah oui, ça a des répercussions, bien sûr. Oui, ça a des répercussions. C'est-à-dire que le processus 14 nanomètres d'Intel, il est un peu meilleur que le processus 14 nanomètres de Samsung. C'est léger, d'accord. Mais c'est vrai. Et alors, le plus amusant, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas comme tous les autres et qui ne sont pas certifiés vraiment 14 nanomètres et qui donc sont à 16. C'est le cas de TSMC. Et TSMC, donc c'est un Taïwanais, hein. TSMC produit des puces pour Apple en particulier, et eux, ils sont à 16 nanos. Donc par exemple, ils sont en largeur de grille, ils sont à 90 nanomètres, alors qu'Intel est à 70 et Samsung à 84. Donc tu vois qu'ils sont à 64 nanomètres d'interconnexion, alors qu'Intel est à 52 et Samsung est à 64 aussi.
Et alors, est-ce qu'il y a des points communs quand même, quand on parle de 14 nanomètres, outre sur le côté génération, est-ce qu'il y a des points communs entre un 14 nanomètres qui est donc avec différentes tailles chez les différents constructeurs ?
En réalité, un processus de fabrication se qualifie pour être appelé 14 nanomètres, s'il est au moins 30% plus efficace, enfin plus petit, c'est-à-dire que les 30%.
D'accord, donc c'est vraiment une illustration.
Oui, voilà, c'est-à-dire si on est à peu près à 30% de distance, c'est-à-dire de miniaturisation en plus par rapport à la génération d'avant, on est qualifié pour. Et en fait, l'ITRS, elle synthétise un petit peu tout ça en disant bon, ben là, on était à 180 nanomètres en 99. On sera à 130 nanomètres en 2001 et il faut qu'on ait un processus qui soit 30% meilleur. Bon, ben, si vous êtes 30% meilleur, vous avez le truc. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour Samsung et Intel. Hein. Samsung et Intel ont des processus qui sont totalement différents, des usines qui sont différentes. Ils fabriquent leurs processeurs de manière totalement séparée. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout les mêmes. Si ça se trouve, c'est pas du tout les mêmes plans, c'est pas du tout les mêmes usines. Voilà, tu vois. Et d'ailleurs, ils n'arrivent pas exactement aux mêmes performances. Mais ils sont quand même certifiés 14 nanomètres tous les deux, tu vois. TSMC, il est à 16 nanomètres, mais il est très proche, en réalité, de Samsung. Hein, il est à 48-48, 64-64 d'interconnexion. Il n'y a que la taille de la grille qui est entre 90 et 84. Donc, en réalité, entre le 16 nanomètre de TSMC et le 14 nanomètre de Samsung, il y a très, très peu de différence.
D'accord.
Okay. Très, très peu de différence. Le processus d'Intel est supérieur. Ça, c'est clair et c'est net.
D'accord. Alors, c'est quoi un node, du coup ?
Alors, un node, c'est ça. C'est-à-dire, un node, c'est un ensemble de processus de fabrication
D'accord.
qui est validé par l'ITRS comme étant 14 nanomètres compatibles.
D'accord, c'est ça, d'accord. Okay.
Et il faut
d'accord.
aussi savoir que dans les 14 nanomètres, il y a plusieurs variantes. Par exemple, il y a le 14 nanomètres LPE, LPP, chez Samsung, par exemple.
Putain, ils font et ce sont des
processus différents. Par exemple, le 14 nanomètres LPE, c'est les premiers. C'est-à-dire, c'est quand tu arrives sur les chaînes de montage, tu es en 14 nanomètres LPE, donc ça veut dire que tout n'est pas encore complètement forcément au point, donc ça marche pas mal, mais les rendements ne sont pas forcément optimaux, et tu ne peux pas forcément monter aussi haut en fréquence que tu voudrais. Et c'est pour ça que, plus tard, ils ont introduit le 14 nanomètres LPP, qui est Performance Boosted Edition, c'est la deuxième génération de FinFET en 14 nanomètres qui améliore d'à peu près 10% le LPE, par exemple, tu vois. Donc il y a
d'accord.
plusieurs, voilà, et c'est pareil pour TSMC. TSMC, ils ont un processus qui s'appelle 16 nanomètres FF+, pour FinFET+. Et qui donc c'est encore un processus particulier. Et globalement, d'ailleurs en 28 nanomètres, on avait aussi deux variantes. On avait la variante high power et low power, par exemple. Donc on a on avait des 28 nanomètres qui étaient soit orientés pour monter en fréquence, soit orientés pour économiser l'énergie. Mais c'était toujours du 28.
Et dans tous les cas, ça respecte les différentes échelles qui sont fixées oui, par la police des nanomètres. Voilà, là,
c'est
d'accord.
ça. L'ITRS, effectivement, elle va comme ça définir un ensemble de règles, d'échelles. Et alors, l'ITRS, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est International Technology Roadmap for Semiconductors. C'est comme ça que ça s'appelle.
Ça claque. Ça comme tu as ça dans ton CV, à mon avis.
Exactement, ça claque. Et donc, comme son nom l'indique, elle fait des roadmaps, c'est-à-dire qu'elle prévoit l'évolution des technologies des semi-conducteurs pour les années qui viennent.
Et alors, du coup, leur tableau, il est prévu qu'ils descendent jusqu'à combien et, enfin, en termes de taille de nanomètres, du coup.
Et ben, c'est là
ils
que
vont
ça
jusqu'au nanomètre individuel.
C'est là que ça devient intéressant. C'est que pour l'instant, leur dernière édition, ce sera la dernière, a priori. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de 5 nanomètres. Et la miniaturisation pourrait prendre fin après 2021, d'après eux. 2021, ce serait, on serait aux alentours des 5 nanomètres.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on a un seuil comme ça ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un seuil de 5 nanomètres qu'on n'arriverait pas à franchir ? Qui, donc, on l'a compris, n'est pas 5 nanomètres, mais c'est plus. Mais
alors,
bon,
les 5 nanomètres, ce sera peut-être pas vraiment 5 nanomètres de largeur de grille. Probablement pas, d'ailleurs. Mais ce sera une largeur de grille qui sera peut-être de l'ordre de, je sais pas, 20, 15, 10 nanomètres peut-être.
Ouais. Hein.
Donc ce sera extrêmement faible. Dans tous les cas, il y aura une vraie miniaturisation. Et cette miniaturisation, elle va amener à des problèmes techniques qui seront tellement compliqués que ce sera plus économiquement viable de descendre en dessous. C'est-à-dire que ça coûterait tellement cher de produire des puces que les vendre ne suffiraient pas à compenser le coût de leur fabrication et de leur conception.
Ah, c'est dingue. Et ça, c'est quand, donc ?
2021.
Enfin, ils annoncent ça, 2021. C'est demain, en fait.
Et oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est tout proche.
Enfin, c'est quoi ? C'est de la théorie, ou est-ce qu'on peut s'imaginer que d'ici là, de toute façon, ils ont retrouvé...
La fin de la miniaturisation, c'est 2021-2023.
Ça fait un peu fin du monde, hein.
Non, oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, pas vraiment, parce que le truc, c'est que déjà, 2021, ce sera peut-être 2023, parce que peut-être, tout simplement, ils vont prendre leur temps. Hein, on a dit qu'Intel, déjà, allait arrêter de proposer une finesse de gravure supérieure tous les deux ans, et allait passer à tous les trois ans, donc ce sera peut-être 2023. Dans tous les cas, c'est très proche. Alors, fin de miniaturisation, ça ne veut pas dire fin de la loi de Moore, ça ne veut pas dire fin des hausses des performances dans les processeurs. Parce que
ça ne veut pas dire non plus besoin de retourner à une armoire pour des gros usages.
Non plus. Alors déjà, il y a toujours la possibilité qu'il y ait une rupture technologique entre maintenant et 2023, pour continuer la miniaturisation, mais c'est très improbable. Parce que, ben justement, l'ITRS, c'est son boulot de faire de la veille technologique là-dessus, et l'ITRS, ben, elle le voit dans les 5-10 ans à venir, aucun processus de fabrication alternatif qui soit viable. Donc, grosso modo, il va falloir soit passer aux UV extrêmes, soit passer à donc ce qu'on appelle de l'auto-organisation dirigée ou des trucs un petit peu plus un petit peu plus sophistiqués, mais par contre tout ce qui est nanotube, tout ce qui est ordinateur quantique et tout ça, clairement, l'ITRS, elle ne voit pas ça prêt dans les 10 ans à venir, voire dans les 5 ans à venir. Donc, de son point de vue, avec les évolutions des processus actuels, il n'est pas économiquement viable de continuer à faire, à miniaturiser les composants électroniques après 2021 et 2023.
D'accord. Donc là, entre-temps, ils ont commencé à se rendre compte que la fin était proche. Donc peut-être qu'ils ont, ils ont arrêté de se retrousser les manches et ils sont allés un petit peu réduire la cadence ou pas, tous nos amis constructeurs?
Mais les constructeurs, eux, ils sont toujours à fond. C'est-à-dire que...
Ils ont rien à foutre de ça.
Non, eux, ils savent très bien. Eux, ils savent très, très bien. C'est eux qui contribuent à l'écrire, la recommandation littéraire. Donc ils savent très, très bien quels sont leurs problèmes. Et leurs problèmes, ils sont, pour l'instant, c'est vrai qu'en dessous de 5 nanomètres, on est face à un mur. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on miniaturise plus qu'on a des processeurs qui vont pas évoluer. Par exemple, on a un des trucs les plus évidents, entre guillemets, c'est de faire des processeurs en couches, avec plusieurs couches, comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, on les stack, hein, on fait des piles. Au lieu de faire un seul die, on fait des piles comme ça de die. Et donc, c'est comme si on mettait plusieurs processeurs dans l'un. Mais évidemment, ça apporte un certain nombre d'autres... ça complique un petit peu la tâche. D'une part, parce qu'il faut faire forcément transiter des informations entre les couches. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des TSV, hein, des full silicon via, c'est-à-dire des petits trous comme ça, par lesquels passent des petites connexions. Donc déjà, c'est un bordel en soi. Et puis, en plus, évidemment, il y a toujours le gros problème de la dissipation thermique.
Grosse chaleur.
Évidemment, pour évacuer la chaleur qui est au milieu du cube de truc, c'est encore un autre problème. Donc, il faut peut-être
qu'on fasse un tube.
Mais il y a des vraies études qui étudient des formes de sang artificiel. On a déjà parlé. Hein. C'est un liquide qui passerait à travers les couches pour refroidir le tout. Donc, ce serait un refroidissement liquide de puce qui serait, par exemple, monté en volume. Donc, il y a des possibilités. Après, il y a toujours l'optimisation, comme on en parlait. Ben, au lieu de faire des puces complètement polyvalentes, on va déjà actuellement vers des puces qui sont plus spécialisées et qui pourraient, par exemple, être beaucoup plus efficaces et ne faire qu'une seule tâche, mais la faire super bien. Donc, c'est pas forcément aussi grave que ça, quoi. Mais c'est vrai que là, on approche, à court terme quand même, de la fin d'une époque.
D'accord, ouais, un petit changement d'habitude, quoi, en fait. Ok, tu nous indiquais que Intel démarre le 10 nanomètres.
Mais oui, parce que là on est à 14 et il faut bien continuer quand même. Hein. Donc les Cannon Lake qui seraient gravés à 10 nanomètres, ben, il va bien falloir commencer à les produire et donc ça se passe maintenant, quoi. Hein, puisque normalement la production au volume devrait se passer fin 2017. Ou peut-être même. Non, même pas fin 2017, hein, peut-être mi-2017.
Ah ouais, dis donc.
Donc ça devrait commencer bientôt. Et pour l'instant, Intel, il s'estime complètement dans les temps, quoi.
Donc, parfait, mais il y en a qui vont même plus loin, du coup.
Et oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est que je viens d'annoncer ça, et après une sorte de surenchère, c'est-à-dire le 7 nanomètres pour TSMC.
C'est moi qui ai la plus grosse.
Dès 2017. Ouais. Et oui, TSMC a annoncé...
Peut-être pas généralisé en production, non? Si.
Eh bien, si. Alors, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en juillet, TSMC ils ont fait un deal avec Apple pour le A11. Donc, ça veut dire que le A11 sera produit en 10 nanomètres sur le processus 10 nanomètres FinFET en 2017 de TSMC. Donc, ça veut dire qu'apparemment, le 10 nanomètres de TSMC serait plus ou moins prêt. Et pour les iPhones de 2018...
iPhone 8.
Il sera en train de préparer le 7 nanomètres qui sera prévu pour 2018.
Le 8S plutôt. Ouais.
Donc globalement, là, eux, ils sont à fond. Sauf que 7 nanomètres, bon, faut voir un petit peu de quel 7 nanomètres on parle, quoi. Comme j'ai dit, chaque constructeur...
Ce ne sera pas du vrai 7 nanomètres d'ailleurs.
Mais c'est... Voilà, 7 nanomètres, c'est une dénomination. Mais tous les processus ne se valent pas forcément, ils n'ont pas forcément tous les mêmes caractéristiques. Et donc Intel aussi, évidemment, prévoit du 7 nanomètres, mais lui, il est prévu pour 2022 et pas pour 2018. Alors pourquoi?
Donc, au-delà de 2021.
Et oui, tout à fait, au-delà de 2021. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que probablement ils vont passer à des structures de processeurs, des structures de transistors différentes. Parce que ben, je n'ai pas parlé, on ne peut pas parler tout, mais disons que tu sais qu'on est passé des transistors planaires aux transistors 3D avec les petits ailerons comme ça, tu vois, qui permettent d'augmenter un petit peu, enfin, qui permettent en fait d'augmenter la surface de contact entre les électrodes, et du coup ça permet d'augmenter l'efficacité du transistor. Bon, ben on pourrait aller encore plus loin et faire des petits piliers. C'est-à-dire au lieu de faire des petits ailerons, on fait des petits piliers et on enrobe complètement, tu vois, la porte en fait enrobe complètement la... Je vais y arriver, il commence à se faire tard. Enrobe complètement la connexion, quoi, je vais y arriver, l'électrode. Et donc, ça permettrait d'améliorer encore le contact et l'efficacité. Mais pour ça, c'est carrément de la nanotechnologie, puisqu'il faut faire des nanopiliers qui font quelques dizaines d'atomes de diamètre, quoi. Donc, c'est loin d'être simple. Et on ne sait pas vraiment ce qu'Intel nous prépare pour le 7 nanomètres, mais ça pourrait être quelque chose de très, 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 très évolué. Donc, il y a encore, voilà. Donc la conclusion, c'est que ITRS, effectivement, commence à évoquer la fin de la miniaturisation. C'est pour dans pas très longtemps, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et donc, la chronique des composants a encore des beaux jours devant elle, jusqu'au moins 2022.
On a quoi faire quelques épisodes encore. Et non, c'est intéressant de voir qu'on arrive à anticiper ce genre de choses-là et que, en fait, je suis à peu près persuadé que d'ici là, il y aura des nouvelles trouvailles, effectivement, pour arriver à encore miniaturiser. Je pense que c'est un petit
et
peu
le
sens de l'histoire.
Et on sera là pour vous en parler.
Évidemment. Avec grand plaisir. Écoute, c'est intéressant. Je crois que vraiment, ça m'aura marqué cette histoire de taille de nanomètre qui, en fait, n'est pas la vraie taille, mais qui est une espèce de nomenclature et qui ne reflète pas exactement la taille de la gravure. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Tu nous as foutu une gifle dans tout ce que tu nous racontes d'habitude. Maintenant, on saura que tout ce que tu nous racontes en taille de nanomètre, c'est faux. Si on veut, Guillaume, commenter l'épisode, on peut largement le faire sur techcafé.fr. Déposer un commentaire pour remonter et faire des remarques, corriger éventuellement si on a dit des petites bêtises. Si on veut te joindre individuellement, toi, sur les réseaux sociaux, c'est sur quel compte, quel réseau social, Guillaume ?
Non, mais TechCafé, c'est très bien.
Bon, ouais, on va se contenter de TechCafé. Et puis moi, c'est Guillaume Vendée sur Twitter, sur Facebook, à peu près où vous voulez, sur mon site. J'ai mis les liens vers les contacts, messages privés des réseaux sociaux. On vous dit à bientôt pour une prochaine session de TechCafé ou une prochaine chronique des composants. Salut à tous, ciao.
Ciao.